All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible. Bonsoir, Jennifer. Fini avec ta lecture.
Oh, pardon, j'étais en train de lire L'écho vedette.
Quel magazine de trash.
Hey! Non, voyons, de... toi, franchement!
J'ai ouvert le magazine, puis le revue, puis la première chose que j'ai tombé là-dessus, c'est le TV Guide. Je suis comme, c'est quoi ça?
Ah, oh, tu connais pas ta culture québécoise? Non, mais blague à part, c'est parce que j'ai la liberté et dans l'écho vedette.
6000 likes!
On est dans ses tops de balado. Il nous a fait un shout-out dans l'Écho Vedette. Merci, c'est
oui,
dommage gentil.
Merci, Jay. Merci, Écho Vedette.
Je suis fière de toi, puis je suis fière de voir le logo de notre podcast dans l'Écho Vedette.
Mais oui, mais...
Mais Colin, il a commencé par dire « magazine de trash », puis il pense pas pour vrai, c'est parce que dans le fond...
Non.
Tu sais, j'ai ouvert, je cherchais c'était où l'article, tu sais.
Première chose que je vois.
Puis là, Colin, il fait... C'est quoi ça? C'est un TV guide? Je suis comme, ben oui, il y a un horaire
que ça
avec les postes
plus.
De télé, là.
L'horaire de programmation télévision.
Et ma grand-mère, elle l'avait tout le temps sur le bras de son divan. Elle a son petite programmation tous les jours.
Et oui,
oui.
Et félicitations à Jay aussi. Son podcast a été nominé pour meilleur podcast humoristique non scripté. So fucking... Extra.
Ben oui, puis il y a Couple ouvert aussi.
Oui.
Steph et Thomas.
Piu, piu, piu.
Ben oui, gang. Vous êtes beaux. Tu sais, j'aimerais ça que tout le monde gagne. Tellement contente de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je t'avais pas lu une histoire que Michel avait écrit.
Piu, piu, piu. Piu, piu, Michel.
Michel is back!
Back in black!
Michel avait besoin d'un petit congé, puis c'est bien correct, là, franchement.
Ben oui. C'est beaucoup de job écrire des épisodes.
Oui, puis je veux dire, elle a une famille, elle a un job aussi. Donc, voilà, ce soir, c'est un épisode écrit par Michel. Encore une fois, c'est moi qui lui ai envoyé le sujet. J'avais regardé le procès sur Court TV. Je ne l'avais pas regardé en entier. Puis je l'avais mis dans mes notes à écrire plus tard. Puis là, quand Michel m'a dit, je suis prête à recommencer à écrire, j'ai fait, hey, ça va l'air super intéressant. Puis, ben, voilà, elle a fait les recherches.
Mm-hmm.
T'es-tu
voilà.
T'es-tu prêt?
Non.
Huh.
Spécialement après dans la dernière épisode, Jennifer, oh my God.
Je continue à lire mon éco-vedette plus tard. Garou est sur le top. Alors, prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire que je te raconte aujourd'hui s'est déroulée à Marchfield, au Massachusetts.
Massive two shits.
Ça s'est déroulé en 2021. C'est l'histoire de Michael Ritchie et de sa femme Christine Ritchie. Puis quand tu googles Christine Ritchie, parce que j'avais commencé à faire des recherches là-dessus, ben c'est l'actrice Christina Ritchie qui pop, là.
Oh, no shit.
Est-ce que OG Wednesday, la petite dans Casper, elle a fait plein d'affaires. Fait que, puis là, Michel, elle m'avait mis en note. Hey, ça a vraiment compliqué mes recherches.
Ça, c'est vraiment la même affaire. R-I-C-C-I?
Oui.
Ritchie?
Oui.
Wow.
Exactement.
Damn, Ritchie.
Alors, Marchfield est une ville située à environ 45 km au sud-est de Boston. C'est une ville côtière de 25 000 habitants située au sud de son état. Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'est, par la North River au nord et... North River au nord. Michel à l'écran de parenthèse. Ben, qu'un. Puis est traversée par la South River et la Green Harbor... River. Hey, ça, c'est pas facile, Colin. Le Green Harbor River.
Green Harbor River. Yeah, c'est pas...
Il y en a des... Elle est surtout connue pour ses planches, pour ses super lieux de plein air, la conservation de la faune, puis la flore, et pour son patrimoine culturel impressionnant, typique des villes composant la Nouvelle-Angleterre. Plus de 50% de la population adulte détient un diplôme d'études post-collégiales et universitaires, ce qui est presque le double de la moyenne nationale.
Damn.
Presque la moitié de la population.
You go, New England.
Les gens sont pas pauvres, loin de là. Le salaire moyen par famille est de 241 000 par année.
Ça, c'est solide, parce que je pense que les maisons là-bas sont pas aussi chères qu'ici. Là.
Non, puis les gens font du cash.
I know. Moins tu peux acheter comme une belle grosse maison pour comme 100 000.
Oui, c'est ça. Ben, peut-être plus que 100 000 maintenant, là, mais ouais.
Ben, tu sais, à Las Vegas, t'as quasiment un mansion pour fucking 200 000.
Ouais, je sais, c'est une vraie joke, là. Moins de 8 % des habitants y vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce qui rend cette ville particulièrement intéressante, c'est qu'elle possède un taux de criminalité, tous les types confondus, là, de seulement 4 crimes par tranche de 1000 habitants.
OK.
C'est pas beaucoup.
Non, c'est nice.
Mais là, moi, souvent, je vous dis les statistiques des crimes violents seulement. Là, c'est tous les crimes confondus.
Wow.
Margeville est donc plus sécuritaire que 82 % des villes états-uniennes, ce qui ne change pas pire des villes qu'on visite d'habitude.
Ben, tabarnak. C'est pas Détroit, là.
Non.
C'est nice, honnêtement.
Pas Floride.
No.
En 2022, il y a eu 24 voies de fait, 0 vol à main armée, 9 viols et aucun meurtre de déclaré.
OK, all right.
L'année précédente, la ville a compté 20 voies de fait, 0 vol à main armée, 5 viols, puis un seul meurtre de déclaré.
La hausse de la viol. Be cool, gang. Be cool.
Michael J. Ritchie est né le 29 décembre 1969 à Hyde Park, Massachusetts.
Massachusetts.
Bianca m'attaque pour ceux qui voient juste la petite main poilue. L'hiver, elle a du poil juste sur les extrémités. Juste sur les bouts. Alors, c'est ça. Michael J. Ritchie est né le 29 décembre 1969 à Hyde Park, au Massachusetts. Il a habité toute son enfance avec ses parents, William et Norma, ainsi qu'avec ses frères et sœurs, William, Donna, Paul, Diana et Anthony. Ça, c'est les frères et sœurs, la famille de Michael, finalement. À 18 ans, il s'est engagé dans l'armée. Il a servi pendant la guerre du Golfe. Il a participé à l'opération Tempête du désert, pour laquelle il a reçu de nombreux honneurs et médailles. Il a quitté l'armée, puis ensuite... j'imagine qu'après une guerre de même, c'est ça.
C'est assez, là.
Il a quitté
l'armée. Especially the Desert Gulf War. That was nasty.
Après, il est devenu
Desert
pompier.
Storm, pardon. Ouais. Desert Storm. Fucking, yeah.
Devenu pompier à Boston.
Oh, nice.
I'm shipping up to Boston. Oh. Au cours des années 90, il a fait la rencontre de Christine Ritchie, à ne pas confondre avec Wednesday Adams.
Ritchie.
Que j'ai dit, Ritchie?
Ritchie. Comme Lionel Ritchie.
Ah, oh, OK. Donc, il s'est marié avec Christine, puis elle avait un fils qui s'appelait Angel, puis Michael, il a pris Angel comme son propre fils. Là.
Damn, il avait quel âge?
Je sais pas.
Oh.
Puis Angel, il l'appelait papa.
Oh, nice.
Pendant les années suivantes, Michael puis Christine ont eu deux autres enfants, donc un autre Michael Jr. et Sophia. La famille va bien, sans trop d'histoire. Pour arrondir les fins de mois, Michael travaille pour une compagnie de vérification de système de gicleurs, Sprinkler System, avec un de ses amis avec qui il travaille à la caserne. Il est apprécié de tous, il est considéré comme un homme généreux, loyal, aimant, qui donne sans compter. Au fil des années, Michael gravit les échelons hiérarchiques à la centrale de pompiers. Il est courageux, il est positif, il est un exemple de détermination et de don de soi pour ses collègues. Christine s'occupe des enfants. On n'en sait pas trop à son sujet. On sait que pendant la pandémie, elle s'est mise à donner des cours de Zumba à distance, puis elle suivait aussi des cours en ligne.
Zumba est devenu bien populaire pendant la pandémie parce que c'est quelque chose que tu peux faire chez vous sans équipement. Puis c'est efficace. Ça marche, ça. C'est des calisthenics, puis le cardio.
J'aime mieux jouer à Just Dance.
Just Dance est solide. T'es fucking étouffé après ça. Là. Il y en a des bangers.
Danse sur Rasputin, essaye de pas être essoufflé après.
Mais oui. C'est notre tune préférée sur Just Dance.
Quand puis moi, ça fait un bout qu'on l'a pas fait, mais quand puis moi.
Bonnie M.
Quand puis moi, des fois, on se fait un petit Rasputin. Hey, ça te tente de faire Rasputin? Puis là, on se lève du divan, on fait
Let's
notre pause.
Get the blood pumping, baby.
On fait Rasputin, puis on finit notre film ou on continue les cops. C'est une pause Rasputin, gang.
Oh, c'est ça, là.
Puis cette tune-là nous a amené dans un rabbit hole de documentaires sur Rasputin après aussi.
Oh, yeah! Grosse bête.
Parce qu'à cause de la toune, les paroles, justement, puis j'étais comme, ben voyons.
Mm-hmm.
Tu sais, grosse bête.
Oh, yeah, yeah, the big one. C'était large puis long.
Bon. On retourne à nos moutons. Mm-hmm. Il semble que la famille Richie est unie et que Michael met sa famille justement devant toutes les autres préoccupations, même s'il est souvent absent parce qu'il travaille beaucoup, sa famille avant tout. Okay? Il est décrit comme un père aimant et très dévoué à sa femme, à ses enfants. Il a développé avec chaque membre de sa famille un lien spécial. La paternité est vraiment pour lui la plus grande source de joie et de fierté.
Oh, nice.
Mais Michael, ben mais... Michael, c'est un papa, OK, mais c'est aussi un vrai party animal, un homme de clan qui sait comment détendre l'atmosphère puis faire sentir tout le monde à l'aise.
Ouais, les pompiers sont notorious pour être capables de boire. Là.
Ton oncle.
Hey, let's go, Uncle Kenny, woo, party time, baby!
C'est un grand fan de musique des années 80, un pêcheur passionné et un amoureux de la mer. Il aime réunir ses passions en invitant ses amis et collègues à un bon barbecue bien arrosé.
Oh.
Les années d'armée, puis de soldats, puis la guerre, puis tout ça, puis les parties ont fini par avoir un effet sur Michael. À l'automne 2018, ben, ça faisait un bout que ça durait, mais à l'automne 2018, Michael Jr. puis sa sœur Sophia sont appelés au salon par leurs parents. Puis c'est là que Michael puis Christine ont annoncé aux enfants « Votre père est alcoolique.
Mm-hmm. »
C'était une surprise pour les enfants parce que ben, il était rendu ado, mais je veux dire, tu vois pas nécessairement ces problèmes-là quand t'es plus jeune ou ton père, il sort pour boire ou... En tout cas, tu t'en rends peut-être pas nécessairement compte. Il avait pas remarqué que leur père consommait plus qu'avant. Ce qu'ils avaient remarqué, par contre, les enfants, c'est que depuis quelques temps, Michael est moins souvent à la maison. Il semble aussi moins impliqué qu'avant dans les tâches. C'est un peu aussi quand il est dans la maison, il n'avait pas l'air tout là. Il parle moins, il prend moins de temps avec eux. Puis ça, pour les enfants, c'était pas normal. Ils avaient remarqué que quelque chose clochait, mais ils n'avaient pas fait un lien avec la consommation d'alcool.
Right. Parce que tu viens de dire que son plus grande source de fierté, c'est d'être un père. Hein?
C'est ça. Fait que, ouais. Il était habitué à un père présent. Puis ben, présent. Il travaillait vraiment beaucoup.
Ouais, c'est des longs chiffres.
Puis surtout qu'il y avait un autre side job pour faire plus de cash. Sauf que quand il était à la maison, il était tout là, puis il était présent pour ses enfants, tu sais. Après la discussion familiale, Michael et Michael Jr. doivent aller faire une commission. Puis une fois dans l'auto, ben le père il annonce à son fils qu'il y a une autre source de conflit avec la maman. Il est comme, au mois d'août dernier, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Janine Bouchard.
Janine Bouchard!
Il y a eu une aventure avec Janine, puis ça a duré genre un mois et demi. Il a mis fin à cette relation-là, puis il a avisé Christine, mais... Christine, ça l'a chamboulé puis ça l'a démoli. Avec raison.
Hell yeah!
Ton amoureux, le père de tes enfants, avec qui t'as tout bâti, te trompe. Ça te détruit.
Fuck oui.
Christine est devenue malade de jalousie. Elle n'arrive pas à passer par-dessus l'événement. Puis ben, selon les enfants, c'est exactement à ce moment-là, au mois d'août, justement, que la tension est montée dans la maison. Christine a fait des accès de rage, de larmes. Ça donne l'impression qu'elle est folle. Là. Tu sais, je m'excuse du terme, mais tu sais, les enfants sont comme, qu'est-ce qui se passe avec elle? Ça tourne pas rond, ça va pas dans son coconut.
Tu sais, le dude vient d'arracher sa cœur puis fucking stomper là-dessus. Là.
Non, je comprends, mais là, en tout cas, on continue. Elle contrôle plus ses émotions, elle fait des attaques de panique aussi, elle fait des grosses crises de panique, puis elle fait plus confiance à son mari du tout. Michael, de son côté, ben, il se met à boire de plus en plus. Hein, il a des trous de mémoire, de la difficulté à travailler. Il fait pas les tâches dans la maison. Il fait pas le ménage. Il fait rien. Sa famille dit qu'on dirait qu'il y a des épisodes de manie où on soupçonne un trouble bipolaire, mais il n'y a pas officiellement de diagnostic. C'est juste que... En tout cas, Christine en parle à tout le monde qui est bipolaire, mais bon, ça, ça c'est pas un diagnostic de même, là, mais il y avait des sauts d'humeur.
Mm-hmm.
Okay? En plus, avec ce qu'il a vécu à la guerre, puis comme pompier, on peut facilement imaginer qu'il y a au moins un petit PTSD quelque part. Là. C'est clair qu'il y a un choc post-traumatique. Là. Je peux pas croire que tu vis une vie normale après avoir été à la guerre non plus.
Non.
Comprends-tu?
Fait que... Desert Storm, il utilisait beaucoup de mines. C'est quoi des mines?
Des mines. Des fois, ça ressort plus tard, les chocs. Là. Ouais.
Puis les mines sont traumatiques. Man. Ouais,
ton ami est en avant de toi, puis il explose dans ta face. T'es comme, bon, mais OK. Ouais. Le couple se chicane sans cesse. Christine n'arrive pas à lui pardonner son incartade. Incartade. J'aime ça les mots de Michel, des fois. Mais elle veut pas le quitter. Michael s'enferme dans un monde de silence, de colère, de ressentiment, puis la santé mentale de Christine continue à se dégrader. Son monde s'est écroulé.
Yeah.
Sophia rapporte que depuis l'annonce, sa mère remet l'aventure de son père sur le tapis à chaque jour. Imagine. Elle saisit toutes les chances de lui mettre sur le nez qu'il l'a trompé, puis elle a peur qu'il la quitte. Ces discussions tournent presque toujours, en fait, presque toujours en chicane, c'est clair. Là. L'atmosphère devient tellement tendue que Michael Jr. décide de quitter le foyer familial en 2019. Il est comme, OK, bye, moi je m'en vais en appartement.
OK. Est-ce qu'il avait l'âge de faire ça ou est-ce qu'il s'est excusé à l'âge de 16 ou 16?
Il y avait l'âge, puis Angel, le fils de Christine, qui était pas le fils biologique de Michael, mais il prenait comme son père, là, mm-hmm. avait quitté quelques mois plus tôt aussi.
Oh no shit.
Depuis la conversation que Michael Jr. a eue avec son père, il entend chaque jour des chicanes, des comportements agressifs entre ses parents. Dans sa chambre au sous-sol, il les entend s'engueuler juste au-dessus de lui, comme des voisins qui t'empêchent de dormir. T'sais. Il n'en peut plus, puis la vibe dans la maison, c'est
pas
de la
merde. Sauf que ce n'est pas des comme, demi-étrangers ou des full étrangers. C'est des callistes de parents.
Mais non, puis... Hey, la vibe dans la maison, toi.
La tension, man.
La vibe, wow. La tension, puis tu sais... Ça te fait de la peine là, quand t'entends tes parents te chicaner. Là.
Fuck yeah!
Sophia se retrouve donc seule avec ses parents dans la grande maison. Pauvre Sophia. Christine commence à faire des attaques de panique tellement intenses que parfois, Sophia, sa fille, doit lui faire prendre de force des médicaments prescrits pour la calmer.
No shit!
Michael, il reste froid devant sa femme, résigné à sa vie de couple ennuyeuse et pleine de violences psychologiques. Il s'enferme dans un monde d'alcool puis de distance émotive. Parle pas. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que toutes les personnes qui ont fréquenté Michael Ritchie, de près ou de loin, parlent d'un homme adorable, croyant, loyal et prêt à tout pour aller aider les gens qu'il aime.
Quand tu dis croyant, c'est religieux?
Ouais.
OK.
Mais pour Christine, il devient, après son aventure, le rappel quotidien de sa trahison. Elle l'a d'en face. À chaque fois qu'elle le voit, elle pense « Tu m'as trompé, mon Chris. »
Yeah, c'est la... C'est comme une cible.
Elle peut pas penser à autre chose.
Sur la tête de son mari, c'est comme « You fucking son of a bitch, you douchebaguette. »
Sophia rapporte que son père, il essaie d'arrêter de boire, il fréquente les AA, qu'il fait tout pour recoller les pots cassés avec la femme de sa vie, mais c'est trop tard pour Christine, je pense, mais les deux s'obstinent à rester ensemble. Ou...
Ouais, il a brisé sa
ou elle, espère, ou elle espère que ça... Elle espère que ça... qui est capable de passer par-dessus, peut-être. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, on sait pas c'est quoi la situation non plus. Elle, peut-être qu'elle est pas capable de se payer une maison. Peut-être qu'elle sait pas. C'est souvent ça, le problème aussi. C'est genre, OK, là, tu splits tout à deux, puis là, tout d'un coup, ça a pas été égal. Il y en a un qui a payé plus que l'autre. L'autre est comme, bon, ben, je fais, moi, je peux pas repartir à zéro. Comprends-tu? C'est souvent
ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, plus commun aux États-Unis, bien, il y en a qui sont mariés comme... direct après fucking college ou même secondaire, puis high school. Puis il y en a des femmes qui n'ont jamais vraiment travaillé.
C'est très fréquent que
ils ont peut-être eu des petits jobs. Ils ont travaillé dans un resto comme caissière ou dans une IGA, whatever, whatever. Ouais. Mais l'homme est responsable pour gagner l'argent.
Il y avait deux jobs. C'est ça. Souvent, ouais, c'est ça. Aux États-Unis... c'est pas rare, ben ça arrive aussi ici, mais c'est pas rare que l'homme travaille, rapporte l'argent, puis que la femme reste à la maison pour élever les enfants, tu sais.
So, même si elle reçoit la moitié, tu sais, il vend la maison, elle reçoit la moitié, mais elle aura pas l'opportunité de gagner assez d'argent pour, mm-hmm. pour rester dans une maison qui est similaire, tu sais. Il faut downgrader en esti, là.
Puis c'est ça qui est difficile aussi, c'est que de passer d'une vie super confortable à une vie plus serrée. Il y a personne qui veut changer son niveau de confort pour plus bas. Tu sais, c'est ça aussi.
Non, c'est ça, c'est spécialement quand t'as des enfants.
Ça se fait, mais je veux dire, ça doit pas être facile, là. Donc, Michael, tu sais, quand on dit qu'il est alcoolique, là, c'était pas une joke, là, il y a des troubles de mémoire à cause de son alcoolisme.
Yeah, he's blackout.
Quand on dit que Christine devient... j'ai pas d'autres mots, là, mais... Tu sais, les enfants, ce qu'ils disent, c'est folle. Tu sais, elle devient folle. Là. Quand on dit qu'elle devient folle, c'est pas une joke. Là. Son premier enfant, Angel, il mentionne qu'il est souvent arrivé à la maison après une chicane de ses parents puis qu'il a trouvé un bordel dans la maison indescriptible.
Wow! So, elle a vraiment perdu sa shit, là, puis elle a fucking crissé la maison en fucking tabarnak.
Ouais. Angel rentre chez lui, un gros bordel, il voit de la vaisselle partout, des décorations cassées, sa mère est complètement hors d'elle, elle est dans la cuisine, elle a un couteau dans sa main, puis elle essaie de se poignarder elle-même dans le ventre. Sauf que la couche qui est différente ici, c'est que le père d'Angel, il essaie de lutter pour maîtriser Christine pour pas qu'elle se poignarde finalement.
Christ, Jennifer, le doux bébé Jésus, qu'est-ce qui se passe, man?
L'ex d'Angel, Katrina, soutient que de 2018 à 2020, les chicanes de couple faisaient partie du quotidien de la famille. Elle constate que Christine passe presque tout son temps dans sa chambre. C'est là qu'elle donne puis qu'elle suit aussi ses cours de Zumba. Elle rapporte plusieurs événements violents qui ont eu lieu dans la maison. Fait que là, tu sais, il y a les enfants qui rapportent qu'il y a des trucs violents, mais là, il y a la blonde d'un des enfants qui sont rendus grands, là. Qui rapporte que à la fin 2018, Michael et Christine, ils ont eu une chicane. Et puis cette chicane-là... excuse-moi... Puis Christine, elle a dû se rendre à l'hôpital pour faire soigner sa main qu'elle a blessée en frappant son mari au visage.
No way. Mais est-ce que son mari a réciproqué?
Non.
Non?
Non.
C'est juste elle qui est comme, you son of a bitch! Bam!
Le jour de la fête des mères, en 2020, il y a une autre chicane qui éclate entre les parents. Katrina raconte qu'elle descend à la cuisine puis elle voit Christine couchée sur le plancher, un couteau dans les mains. Michael puis Angel sont sur elle puis ils tentent encore une fois de l'empêcher de se faire du mal.
My God, I mean, je sais que c'est pas difficile, mais si voir le face de quelqu'un te mettre dans cette position-là, tu sais, il faut avoir une certaine distance, il faut lui laisser, là.
Ça marche pas, là, c'est
non,
ça.
Parce que chaque fois qu'elle voit son assis de tronc, elle est fucking reminded qu'il a triché avec, avec quelqu'un. Il a fucking ruiné sa vie, brisé sa cœur.
Ouais.
Tu sais, tu vas jamais guérir si on continue de fucking lancer du sel puis verser du vinaigre sur tes blessures. Tu sais, puis c'est des blessures très profondes. Là.
Oh, mon petit artiste.
Ah, oh, Jennifer.
Puis Katrina, même, a dit... Elle a quitté son chum, elle a quitté Angel, puis elle a quitté la maison. Elle n'était plus capable de cette violence-là. Elle était comme, qu'est-ce que c'est ça, cette famille-là? Le 28 janvier 2021, Sophia est à la maison dans sa chambre, puis elle entend encore une chicane éclater entre ses parents. Puis elle est tellement habituée des ententes de chicaner puis se battre qu'elle est comme, OK, c'est juste ma vie, elle reste dans sa chambre, tu sais.
Jesus Christ, Jennifer.
Puis là, les tons de voix montent, les cris deviennent des hurlements.
Mm-hmm.
Puis il y a vraiment de la grosse rage. Il y a des objets qui sont brisés. Puis Sophia, elle essaye de se changer les idées. Mais c'est une chicane qui n'est pas facile à ignorer. Puis là, sa mère a fini par appeler Sophia. Elle crie après Sophia, elle est en état de choc. Puis elle a dit, appelle le 911.
Mm-hmm.
Quand Sophia descend à la cuisine, elle trouve son père inerte sur le plancher, puis sa mère à côté.
OK.
Elle voit pas de signe de blessure.
Mm-hmm.
Ni sur son père, ni sur sa mère. Mais son père, il bouge plus. Puis sa mère est en crise de panique.
Oh my God, Jennifer, qu'est-ce que le fuck?
Dans l'appel 911, on entend Sophia qui parle, puis elle décrit la situation. On entend surtout en arrière la mère hurler sa vie, là. Puis quelques minutes plus tard, les policiers arrivent à la maison.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Puis là, le nom du policier qui arrive, il s'appelle Chris Martin.
So we have Christina Ricci and Chris Martin.
Ouais, mais là, c'est
co-starring.
C'est Christine Ricci.
Oh, okay.
Puis Chris Martin. Fait que là, Chris Martin, c'est le premier officier de police à arriver sur les lieux. Il constate que Christine est encore en crise importante puis que son mari est inerte à côté. Et Christine, elle hyperventile puis elle crie. Là, elle est dans tous ses états, à grosse crise de panique intense. Chris Martin, excusez, il voit qu'il y a un couteau de cuisine de 5 pouces à ses pieds.
Uh-huh.
Mais il voit pas de blessure apparente sur la victime. Il prend donc pour acquis que Michael s'est écroulé suite à des problèmes médicaux qui lui auraient été fatals. Pendant que les premiers répondants commencent des compressions cardiaques, Christine finit par se calmer. Elle raconte que son mari a eu une crise de manie puis il l'a violemment attaqué. Alors qu'il s'élançait vers elle pour la frapper.
Puis elle s'est défendue avec le couteau?
Non, il est tombé au plancher, raide mort. Comme s'il avait fait une crise cardiaque ou de quoi de même.
Wow.
Là, les policiers n'arrivent pas à le sauver. Les ambulanciers non plus. Le corps est amené dans l'ambulance. Ils entrent dans la maison quelques instants plus tard pour informer Chris Martin qui restait avec Christine Ricci.
Mm-hmm.
Ils disent « Hey, on a trouvé une blessure dans le chest de Michael. »
Comment ça qu'il a pas fucking pissé le sang partout, là?
On va s'en parler tantôt.
Oh, Jennifer!
Mais elle l'a poignardé direct dans le cœur.
Ooh! Jennifer, ça c'est symbolique, là.
Direct dans le cœur.
Mm-hmm.
Je vais vous expliquer plutôt le rapport médical, mais... Tout le sang, dans le fond, s'est aggloméré quelque part.
Donc, oui, parce que le cœur ne peut pas pomper s'il y a une grosse calice de trous là-dedans. C'est pour ça qu'il y a fucking pas pissé de sang partout. Là.
Le nom du procès, là, ce qui m'a fait cliquer sur Court TV, c'était The Stab in the Heart Trial.
Jesus Christ, Jennifer. Wow!
Fait que quand y a les ambulanciers rentrent et qu'ils disent ça à Chris Martin, il est comme OK, bon, il va falloir te re-questionner. Puis là, ben, elle ajoute un élément important, du moins, à ce qu'elle avait pas dit au début, tu sais. Elle dit, pendant qu'il s'élançait vers moi, j'ai pris un couteau pour me défendre. Puis quand il s'est jeté sur moi, le couteau, il a pénétré dans son cœur.
Il s'est auto-fucking stabé parce que lui, il avançait. C'est comme Bart puis Lisa Simpson dans l'épisode où Lisa dit, OK, je vais continuer de kicker, puis si t'es devant moi, c'est ton problème. Puis Bart est comme, all right, je vais fucking swinger mes bras comme ça, puis si je te frappe, c'est ton problème aussi. Puis ça avance lentement, un vers l'autre.
Exactement comme ça.
Sauf pas comme ça.
Dans les heures qui suivent, Christine est accusée du meurtre au deuxième degré, d'agression à main armée de son conjoint des 30 dernières années et du père de ses 3 enfants, 30 ans. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante parce que Christine Ricci n'a pas eu son procès en 2021 hein, pour des raisons de santé, de lourdeur judiciaire, puis c'était la COVID. Tout a été reporté.
Tout a été reporté pendant longtemps, là.
Fait que pendant les 3 ans et demi d'attente entre son arrestation, on peut dire que Court TV s'est vraiment beaucoup développé. Hein, puis là, on a pu suivre son procès en direct avec une description détaillée des aspects essentiels de l'événement. Michel a dit que c'est vraiment super intéressant, puis c'est un peu un rabbit hole, cette affaire-là. Hein. Tu te mets à suivre l'action comme si c'était un téléroman, puis c'est vrai. Puis là, elle a décrit le procès en ordre chronologique. Le jour 1 du procès, c'est le 25 juillet 2024. Le procès s'ouvre. La procureure Shannon Buckingham, qui soutient que Christine n'a jamais pardonné à son mari son infidélité. Selon elle, Christine est responsable de la mort de Michael Ritchie le 28 janvier 2021. L'avocat de la défense, de son côté, il maintient que l'incident qui a coûté la vie à Michael, c'est un accident causé par une chicane de couple qui a dégénéré entre un homme alcoolique en proie à de sévères maladies mentales et une femme hystérique incapable de lui pardonner une erreur de parcours.
Hmm.
Tu vois, tu sais, il y a tout le temps deux versions aux histoires, puis quand tu regardes un procès, c'est vraiment là que tu fais OK, les deux présentent des faits. Ben, en tout cas.
Yeah. Mais tu peux choisir les couleurs que tu utilises pour peinturer ton image, là.
Exactement. Selon lui, c'est Michael qui s'était lancé vers Christine qui tenait un couteau de cuisine à la main seulement pour l'intimider. En lui tombant dessus, le couteau aurait pénétré son corps et l'aurait tué. Sophia, qui a 20 ans au moment du procès, est appelée à la barre. La poursuite fait jouer l'appel 911 puis ça la replonge dans des souvenirs vraiment difficiles à... C'est pas facile, tu sais. En cours, là. Les cris, les hurlements de sa mère emplissent la salle d'audience. Sophia raconte sa version des faits, puis la détresse de sa mère, son père inerte sur le sol, la crise de panique, les médicaments, tout ça. Elle doit revivre l'événement devant sa mère qui est présente. Là, t'sais.
Mais tu sais, quand tu dis à une jury, c'est comme, oh, c'est une fucking alcoolique qui a fucking trompé sa femme, il n'est pas dans le meilleur... C'est pas la meilleure projection de lui, là. C'est lui la victime, là.
Ouais, mais il s'est poignardé. Il n'y a pas de raison. Genre, tu sais, il y a plein d'autres décisions qu'elle aurait pu prendre avant d'en arriver là, parce qu'on s'entend qu'elle, je veux dire, elle est quand même dans le tort.
Hein. I know, mais...
Tu me fais chier, puis t'es le pire trou de cul au monde. Si je te poignarde, j'ai pas le droit de faire, tu sais.
I know. Mm. I mean, il a fucking trompé sa femme, puis il a tuer sa mère, c'est sur l'échelle de lequel est plus grave.
Non, mais tromper, je veux dire, c'est moralement pas correct. Puis si t'es marié, c'est une bonne raison pour divorcer. Puis
c'est pas illégal.
Ben, je veux dire, tu sais, c'est comme la grand-mère ghetto, tu t'en rappelles, là, elle a tiré le père de famille, mais tout le monde s'entendait pour dire que c'était un trou de cul. Hein, je veux dire, tu fais pas ça. J'ai de la misère à comprendre. T'es comme en train de dire, ouais, mais il mérite, il l'a trompé.
No, that's not what I'm saying at all. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu présentes le mari comme un alcoolique puis une personne qui a triché sur sa femme, c'est plus facile de les convaincre que...
Il est tombé.
Elle était en train de se défendre ou c'est lui qui a tombé parce qu'il était fucking saoul puis enragé puis non. So,
OK.
You know, mais quand même.
Fait que Sophia a témoigné en cours. Elle mentionne, comme je viens de vous dire tantôt, là, qu'elle n'avait pas remarqué aucune trace de blessure sur le corps de son père quand elle est descendue dans la cuisine. Puis elle confie au jury que les semaines qui ont précédé les événements, les affrontements entre Christine et Michael, ils ont fait... que s'envenimer, finalement. Puis le même jour, la poursuite appelle Angel à la barre. Il explique alors que la relation entre ses parents n'avait rien d'inhabituel jusqu'à l'aventure de son père. Fait qu'Angel, c'est le fils.
Que le père a pris comme c'était son fils, là. Puis...
Fait que tu lui dis, tout était comme d'habitude, c'est vraiment l'élément déclencheur, ce qui a fait en sorte que c'est devenu un living hell dans la maison, c'est qu'il a trompé Christine. Puis c'est pendant ce témoignage-là que Angel raconte les épisodes de violence de sa mère. Puis pendant son contre-interrogatoire, il confirme que son père buvait beaucoup, même énormément, puis que ça influençait son comportement, puis ça lui causait des trous de mémoire.
I mean, si tu m'as punché dans le face assez fort que tu brises ta main, ça se peut que je vais prendre une coupe de drink extra aussi.
Le jour 2 du procès, c'est le 26 juillet 2024. Le matin du deuxième jour du procès, c'est au tour du patrouilleur Chris Martin de venir raconter son intervention du 8 janvier 2021.
Shout out Chris Martin.
Il explique à la cour la crise de Christine, mais aussi l'état dans lequel il a trouvé Michael lors de son arrivée chez Lee Ritchie. Michael était inerte dans la cuisine, sur le sol, sur le dos. Il rapporte qu'il a trouvé un couteau à steak de 5 pouces au pied de l'homme, mais qu'il n'a observé aucune trace de blessure, aucun sang.
Mm-hmm.
Il y en a donc déduit, comme je vous ai dit
c'est
tantôt.
C'est wild qu'il n'y avait pas de sang sur le lame du couteau, là.
Il y en a donc déduit que Michael avait simplement eu un problème médical, ce qui a conduit les premiers répondants à commencer les manœuvres de réanimation.
Il y a eu une crise de cardiaque en asti avec un couteau dans le fucking chest, Steve.
Il raconte les versions contradictoires de Christine à propos des événements, puis confie que s'il avait su pour les blessures de Michael, ben, il aurait intervenu différemment avec Christine, puis il aurait au moins menotté, tu sais. Les CSI qui ont inspecté la scène de crime ont saisi des couteaux. Malgré leurs tests, ils n'ont pas trouvé d'empreinte utilisable, mais les tests d'ADN ont identifié le profil de Michael sur les couteaux, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans parce que c'était des couteaux dans sa maison. Là.
Yeah.
Le jour 3 du procès, c'est le 29 juillet 2024. Au troisième jour du procès, c'est au tour de deux amis de Michael d'être appelés à la barre. Les deux amis racontent que depuis plusieurs mois, ils pouvaient observer des traces de blessures sur le visage de leur ami, parce qu'il se faisait frapper par sa femme.
Mm-hmm.
Ça se répétait assez souvent pour qu'il puisse lui poser des questions à un moment donné. Là. Mais Michael, il essayait toujours, il restait évasif. Là. Il était comme, whatever, c'est pas grand-chose.
The
chose.
First rule about Fight Club is we don't talk about Fight Club.
Il y avait des graphiques dans le visage, des bleus, des yeux au beurre noir, des lèvres tuméfiées, puis j'en
Jesus
pense.
Jesus Christ! Ouais.
Son ami d'enfance, Mark McDonald, travaillait avec lui dans l'entreprise de...
Maintenant, c'est qui, Donald Duck?
Son ami d'enfance, Mark McDonald, travaillait avec lui dans l'entreprise de Sprinkler, de Gicleur, là, pendant leur journée de congé de la caserne de pompiers. Puis lui, il raconte qu'au cours des 6 mois précédant la mort de Michael Ritchie, sa santé mentale a commencé à se dégrader jusqu'à ce qu'il quitte son emploi.
Wow.
Il se souvient aussi des comportements et attitudes changeants de Christine. Elle passait d'agréable et sympathique à directive puis super agressive envers son mari dès qu'il était hors de portée. Dans le fond, quand il n'était pas à la maison, il ne faisait pas confiance, elle paniquait.
Mm-hmm.
L'affaire, là, c'est qu'elle criait tellement fort après son mari que même si elle attendait d'être seule avec lui, ben, tout le monde l'entendait pareil, les voisins, tout le monde qui n'était pas loin. Mark dit aussi qu'elle était tellement obsédée par la trahison de Michael qu'elle partait souvent se promener en voiture et regardait de manière obsessive les noms sur les boîtes à mal à la recherche de la femme responsable de son malheur.
Ouh, oui!
Puis avec du recul, il dit qu'il regrette de ne pas avoir appelé la police dans ce temps-là. Le jour 4 du procès, c'est le 30 juillet 2024. C'est une journée particulièrement intéressante parce que c'est la maîtresse de Michael qui vient témoigner. Leur histoire a juste duré 6 semaines, 1 mois et demi, puis a pris fin quand Janine a appris que Michael n'était pas séparé comme il prétendait. Puis finalement, Michael il a mis fin à leur relation aussi. Il était comme, il n'a pas donné trop d'explications, en fait. Il a juste arrêté de tromper sa femme. Environ un mois après la fin de leur courte histoire, Christine a texté Janine pour lui dire de laisser son mari tranquille. Elle s'est aussi pointée 2 fois chez elle, puis la deuxième fois, elle était très insistante, tellement que Janine a dû appeler la police en janvier 2020 contre Christine qui est allée chez elle.
No shit.
Après cet événement-là, Janine n'a plus entendu parler des Richie, de Michael, de Christine. Pour elle, l'histoire avec Michael, c'était fini. C'était vraiment moins grave que ce que Christine avait interprété parce qu'elle, oui, elle a couché avec lui, mais c'était tout. Puis quand il est parti, elle était comme « OK, je tourne la page, c'est fini. » Mm. La même journée de ce procès-là, Michael Ritchie Jr. puis l'ex-copine d'Angel viennent donner des détails dont je t'ai parlé plus tôt, là, les crises de Christine, la distance de Michael, l'annonce de l'alcoolisme, l'aventure, la tristesse, blablabla. Au 5e jour du procès, Michael Jr. Il continue son témoignage qui avait commencé le jour 4. Il raconte un événement vraiment triste qui est arrivé en juin 2019. C'est lors d'une crise particulièrement violente de sa mère. Il a dû la prendre en contention, retenir ses mains pour éviter qu'elle ne se blesse ou qu'elle blesse son père. Puis c'est après cet événement-là qu'il a dit « Fuck off, moi je déménage, là, je reste plus ici ». Puis si on additionne ensemble toutes les fois où les enfants Richie ont dû intervenir pour calmer Christine, ça commence à faire tout un tas d'épisodes de violence domestique. Là. Puis ça, c'est sans compter les fois où Christine et Michael étaient seuls puis que personne les a vus se chicaner, tu comprends?
Right, right.
Puis c'est sans compter les nombreuses blessures que l'entourage de Michael a pu observer sur lui au fil du temps.
J'imagine que les voisins avaient besoin de témoigner en cours aussi, puis ils ont dit comme c'était non-stop. Ils chicanaient à tous les jours, c'était fucking tout. Ils sont tout le temps en train de hurler.
Mais il ne faut pas que tu oublies qu'on n'est pas à Montréal collé-collé. C'est des maisons avec des plus gros terrains. Fait que les voisins, c'est sûr qu'ils entendaient crier de temps en temps, mais ils ne sont peut-être pas aussi conscients de tout ce qui se passe parce que c'est ça, c'est plus loin.
Parce que tu t'en souviens quand on habitait sur Papineau?
Oui.
Puis on avait les voisins qui étaient sur l'autre bord
de rue. À chaque fois qu'ils se chicanaient, on allait voir dans la fenêtre.
Oh my God, on les espionnait, puis les polices arrivaient, puis ils hurlaient dans la rue. Hurlaient dans la nuit. Symptôme de vampire.
OK. Symptômes de vampirisme hurlant dans la nuit. Là, il va falloir mettre un lien, sinon on va avoir l'air fou.
Let them find it.
Le témoignage de Michael Jr. est vraiment triste et émouvant. Il raconte qu'après son départ, il a maintenu un lien étroit avec son père et sa sœur, restés seuls avec leurs parents. Un jour, Sophia a appelé Michael Jr. pour lui dire qu'il était encore en train de se battre puis qu'elle voulait partir elle aussi. Une semaine avant la mort de Michael, Michael Jr. va lui rendre visite à la caserne de pompiers. Il trouve que son père a l'air hagard, perdu, puis qu'il voit la trace d'un vieil œil au beurre noir dans son visage. Michael Jr. termine son témoignage en avoir beaucoup voulu à sa mère à cette époque-là. Pas juste parce qu'elle n'arrêtait pas de revenir sur l'infidélité de son mari, mais surtout parce que son hostilité et sa violence envers tous les membres de la famille n'ont fait qu'augmenter jusqu'au jour où elle a fini par le tuer.
So, I mean, Michael a fucké up à plusieurs reprises, mais il a quand même fucking mangé tout cet abus physique. Puis il l'a laissé fucking, you know, vider son âme. Mais il aimait Christine quand même, tu sais. Il a resté avec. Il essaie, c'est d'aller à Alcoholics Anonymous. You know, il a fait des mesures pour améliorer, de gagner sa trust. Mais... c'est fucking wild. C'est wild comme fucking relation toxique. I mean, il a vraiment fucké up quand il a trompé sa femme. Puis, c'est sûr qu'elle avait le cœur brisé. Est-ce que ses fucking rampage était justifié? Pas tant. I mean, mais pourquoi rester avec quelqu'un? C'est peut-être c'est Michael qui essaie continuellement de la convaincre. Please, s'il vous plaît, laisse-moi pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est clair qu'il aimait.
Mais elle, elle voulait pas qu'il la laisse.
So, les deux sont pris là-dedans, mais elle est pas capable de...
passer par-dessus, non?
Non, pas en tout. So, I mean, tu peux pas fucking te mettre toi-même dans une prison de colère de même. C'est... il faut passer à d'autres affaires, il faut penser à d'autres choses. Là. Elle est toujours confrontée par ça, puis c'est sûr qu'elle va virer folle.
Oui. La cinquième journée du procès, il y a le docteur Maria Del Mar Capo Martinez.
Bravo.
C'est le témoignage de ce docteur-là qui va donner à l'affaire son sinistre surnom. The Stabbed in the Heart Trial, comme je vous disais tantôt.
Oui.
Parce que la docteur vient donner les détails de l'autopsie qu'elle a menée sur la dépouille de Michael Ritchie, puis elle rapporte ce qui suit. Michael a souffert d'un traumatisme pénétrant causé par une lame dans son torse qui a transpercé la peau, les muscles, les cartilages, lui a traversé le cœur et le poumon et a provoqué l'accumulation de presque la moitié du volume total de son sang dans la cavité thoracique.
Jésus!
Elle a aussi remarqué une autre plaie pénétrante dans le haut de son dos, une abrasion dans le bas de son dos et des coupures sur ses doigts.
Aïe, oui.
Ses conclusions sont que Michael Ritchie est décédé d'avoir été poignardé en plein cœur. La douleur et le sang s'accumulant lui ont rendu la respiration difficile avant de perdre conscience et de mourir.
Jesus Christ, I mean, les coupures sur les doigts, ça montre qu'il a soit essayé de se défendre,
ouais,
ou... il a essayé de fucking enlever le couteau lui-même.
C'est ça, ouais.
Jesus Christ, sauvage as fuck, Jennifer. Ah, j'aime pas ça, moi.
Dans son contre-interrogatoire, elle accorde à la défense que la blessure fatale de Michael aurait pu être causée par une chute sur le couteau et que le poids de la victime aurait contribué à la gravité des dommages. Alors, elle dit, regardez, c'est possible qu'il soit tombé sur le couteau. Tu sais, je veux dire, du côté médical...
c'est...
avec l'angle, yeah, la force, okay, tu as dit c'est possible.
Mais...
dans son plaidoyer final, l'avocate Christine Ritchie soutient que la mort de Michael est le résultat d'une triste altercation où la femme a une fois de plus menacé de se faire mal avec un couteau. Mm. Son mari se serait élancé vers elle pour l'en empêcher et le couple aurait trébuché sur une petite marche entre la cuisine et la salle à manger. Michael, au moment de tomber, se serait... et foiré tout son poids, mettons, là, sur la lame de 5 pouces du couteau qui, à cet instant précis, pointait vers le haut.
Jesus.
Dans le fond, si on en croit le plaidoyer, là, celui-là, Michael se serait lui-même infligé cette blessure fatale par hasard. Selon l'avocat, Michael Ritchie ne serait toujours... Pardon. Selon l'avocat, Kristen Ritchie ne serait toujours pas remise des événements et elle s'en voudrait terriblement d'avoir causé la mort de son mari par accident. No shit, j'espère.
Yeah.
Et soutient que... Ben là, par accident. Ça, c'est l'avocat de Kristen. Mm-hmm. Et soutient que la responsabilité de Kristen dans la mort de son mari ne peut être établie hors de tout doute raisonnable. Il demande donc au juré de se montrer clément envers sa cliente qui vivait dans une très grande détresse psychologique à l'époque et de la déclarer non coupable. Parce qu'il y a un doute. C'est vrai qu'il peut avoir un... C'est pas hors de tout doute parce que le médecin a dit que c'est possible.
Yeah, I mean, dire non coupable, ça, c'est un peu trop loin, là. Peut-être descendre les charges de meurtre...
Au deuxième degré.
Yeah, au manslaughter, peut-être.
C'est ça, c'est meurtre au deuxième degré.
Ouais.
La poursuite quant à elle... La poursuite quant à elle rappelle les événements, l'insistance de Kristen auprès de Michael, de Janine, des enfants. Elle rappelle les marques de violence observées au fil du temps sur le corps du pompier, la dégradation de son état psychologique, l'aggravation de sa consommation d'alcool. La procureure entame son plaidoyer ainsi. Kristen était consumée de jalousie et de colère envers son mari qui l'avait trompée. Complètement obsédée par les événements, elle a mis fin à son calvaire psychologique en tuant le responsable de ses malheurs. Son mari, le père de ses enfants, Michael Ritchie, le 28 janvier 2021. Peu importe les efforts que Michael a mis pour sauver sa famille, l'obsession de Kristen a tourné au cauchemar pour l'homme et toute leur famille puisqu'elle les a tous entraînés dans un cycle de la violence toujours plus intense. Elle termine son plaidoyer en s'adressant au jury directement. Selon elle, au terme de ce harcèlement quotidien, la femme s'est aliénée le soutien de tous les membres de sa famille puis en est venue à la violence physique envers son mari, comme en témoignent les nombreuses personnes qui sont venues à la barre. Elle conclut en appelant les jurés à déclarer Kristen Ritchie coupable du meurtre au deuxième degré de son mari, Michael Ritchie, 51 ans, Ritchie. Le 28 janvier 2021. Ritchie?
Ritchie.
Le 2 août 2024, au terme de 3 courtes heures de délibération.
OK.
Quand c'est pas long de même.
Sur mon point, tantôt, est nul.
Ben non, t'as raison. Le jury a reconnu Kristen Ritchie coupable du meurtre au deuxième degré de son mari et d'agression à main armée sur lui.
Mm-hmm.
Manslaughter.
Mm-hmm.
Le 22 août 2024, Kristen s'effondre à son arrivée en cour pour l'énoncé de sa sentence. Quelques minutes plus tard, elle s'est remise sur pied, puis elle a été en mesure d'écouter le juge lui annoncer qu'elle sera condamnée à 6 ans de prison pour les charges d'agression à main armée sur son mari, puis à prison à vie.
Pour?
Pour le meurtre, là, puis okay. Avec possibilité de libération conditionnelle dans 25 ans pour le meurtre au deuxième degré de son mari.
OK.
Fait que tu sais, c'est... Prison à vie, c'est 25 ans plus 6 ans ensemble. Mais dans 25 ans, elle va pouvoir, si elle a une bonne conduite, peut-être sortir de prison.
Mm-hmm.
Le juge prend la peine de préciser que malgré ses malaises et ses larmes, parce que tu sais, elle pleurait en cours, elle a perdu connaissance, puis tout ça, mais elle n'a jamais mentionné qu'elle regrettait son geste. Plusieurs amis, membres de la famille de Michael et surtout leurs 3 enfants prennent la parole pour exprimer leur chagrin d'avoir perdu leur papa tellement apprécié de tous.
Mm-hmm.
Cette histoire brise le cœur, pas juste avec un couteau.
Ta-dam!
Elle rend vraiment triste parce que c'est bien avant le récit d'un meurtre, le récit d'une souffrance indescriptible vécue par une femme qui a réussi à aller chercher de l'aide quand elle aurait dû le faire. C'est le récit d'un homme qui a fait une erreur puis qui a payé par sa vie. C'est le récit d'une famille décimée par une haine qui n'arrêtait pas de grandir. C'est une histoire comme beaucoup d'autres. C'est ça l'affaire. Il y en a des couples qui se laissent pas, qui doivent se laisser, mais qui restent ensemble, qui se remettent toujours sur le nez des affaires de même.
Oh, yeah. Qui fight tout le temps. Là. C'est toujours le chicane. Ils sont fucking pas contents. C'est lourd, là.
Cette histoire-là rappelle aussi que la violence conjugale, la manipulation, l'obsession peuvent prendre plusieurs formes et qu'on ne devrait jamais les ignorer. Il ne faut pas vivre là-dedans.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça mon histoire d'aujourd'hui. C'était ça l'histoire de Michel. Mais avant de vous quitter, si votre consommation ou celle d'un de vos proches vous inquiète, pour obtenir une écoute sans jugement puis du soutien, de l'information ou des références, on vous recommande d'appeler Drogue, Aide et Référence au 514-527-2626 à Montréal et ses environs et au 1-800-265-2626 partout ailleurs au Québec. C'est gratuit, confidentiel, puis offert 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Puis aussi, si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez une situation de violence conjugale, sachez que des ressources sont disponibles pour vous. SOS Violence Conjugale offre un service gratuit, confidentiel et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez appeler au 1-800-363-9010, texter au 438-601-1211. Vous pouvez aussi visiter le www.sosviolenceconjugale.ca. Vous n'êtes pas seul. De l'aide est toujours à portée de main. Voilà.
Puis d'être frappé une seule fois, c'est pas correct.
Nope.
Nope. Même pas une fois. That's it, baby. Mm. Fuck you, douchebaguette. Bye-bye.
Merci, gang, d'être là.
Merci de souscrire à notre Patreon récemment dans le groupe Facebook. On a eu plein de monde qui ont donné des bons reviews sur notre Patreon et ont dit que c'est la bombe. Puis, yay, je l'apprécie.
Oui.
Vous êtes donc bien smart de faire ça. Puis, on voit que ça aide. Il y a beaucoup de monde qui ont lu ça puis ont dit, bon, moi, je vais l'essayer.
Vous êtes tellement fin.
C'est fucking wild. Merci pour votre soutien.
Colin est en train d'écrire son épisode!
Oh my God, yeah. Je suis dû. So, c'est ça.
Peux-tu savoir mes sources?
Oui.
Patriotledger.com, CourtTV.com, Newsweek, Reddit, Newsweek, NBC Boston, CourtTV. Michel a regardé tout le process et des heures et des heures et des heures. Merci beaucoup, gang. Je vous aime.
Puis là, je vais pacter des package de merch parce qu'on a plus de commandes encore. Merci pour ça aussi. Le merch est toujours disponible sur CourtTV.ca.
Bye bye!
Bye!
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.